Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 32e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Gottfried Guillaume Leibniz. Et la question, si rien n'échappe à la volonté de Dieu, n'avons-nous rien à faire ? Rien n'échappe à la volonté de Dieu. Tout ce qu'elle veut ne peut pas ne pas advenir, ni aboutir, comme le dit Leibniz, au meilleur des mondes possible. Mais quel est le rapport entre cette nécessité et la liberté humaine ? Doit-on tomber dans la raison paresseuse du quiétisme ou du terrorisme ? Car le quiétisme dira qu'il n'y a qu'à se laisser porter et tout ira pour le mieux. Le terroriste prétendra que ce qu'il fait, même d'horrible, ne peut que s'accorder à la volonté divine. C'est à cette question que s'est spécialement attaché Leibniz dans ses essais de théodicée, distinguant notamment entre une nécessité géométrique ou absolue et une nécessité morale ou hypothétique. Dans le texte que nous allons entendre, extrait de sa préface, sont distinguées trois conceptions du destin. Le fatum mahométanum, destin selon les mahométans, le fatum stoicum, destin selon les stoïciens, et le fatum christianum, destiné selon le Christ, très différente des deux autres et assumant pleinement la liberté de chacun. Mais laissons place à la parole de Leibniz.
Il y a un labyrinthe fameux où notre raison s'égare bien souvent. Il regarde la grande question du libre et du nécessaire, surtout dans la production et dans l'origine du mal, et embarrasse presque tout le genre humain. L'idée mal entendue de la nécessité, étant employée dans la pratique, a fait naître ce que j'appelle « fatum mahométanum », le destin à la turque. Parce qu'on impute aux Turcs de ne pas éviter les dangers et de ne pas même quitter les lieux infectés de la peste. En revanche, ce qu'on appelle « fatum stoicum » n'était pas si noir qu'on le fait. Il ne détournait pas les hommes du soin de leurs affaires. Mais il tendait à leur donner la tranquillité à l'égard des événements par la considération de la nécessité qui rend nos soucis et nos chagrins inutiles. En quoi ces philosophes ne s'éloignaient pas entièrement de la doctrine de notre Seigneur, qui dissuade ses soucis par rapport au lendemain, en les comparant avec les peines inutiles que se donnerait un homme qui travaillerait à agrandir sa taille. Il est vrai que les enseignements des stoïciens et peut-être aussi de quelques philosophes célèbres de notre temps, se bornant à cette nécessité prétendue, ne peuvent donner qu'une patience forcée, au lieu que notre Seigneur inspire des pensées plus sublimes, et nous apprend même le moyen d'avoir du contentement, lorsqu'il nous assure que Dieu, parfaitement bon et sage, ayant soin de tout, jusqu'à ne point négliger un cheveu de notre tête, notre confiance en lui doit être entière, de sorte que nous verrions, si nous étions capables de le comprendre, qu'il n'y a pas même moyen de souhaiter rien de meilleur, tant absolument que pour nous, que ce qu'il fait. C'est comme si l'on disait aux hommes, faites votre devoir et soyez contents de ce qui en arrivera. Non seulement parce que vous ne sauriez résister à la providence divine ou à la nature des choses, ce qui peut suffire pour être tranquille, et non pas pour être content, mais encore parce que vous avez affaire à un bon maître. Et c'est ce qu'on peut appeler fatum christianum.
Fabrice Adjadj, il y a un labyrinthe fameux où notre raison s'égare bien souvent. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors, il s'agit de la préface des essais de Théodicée. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une théodicée, hein ? Il y a le mot qui veut dire justice ou justifier, et théos, donc justifier Dieu. Alors, entreprise toujours périlleuse, parce que c'est plutôt Dieu qui nous justifie que nous qui le justifions, mais nous sommes dans des essais qui veulent montrer que contre l'athéisme, qu'on ne peut pas dire que Dieu n'est pas parce qu'il y a du mal, ça c'est la première chose, mais aussi contre de fausses visions de Dieu. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas que... c'est pas l'athéisme qui est en ligne de mire, hein, par rapport à la question de la nécessité. Il y a une nécessité athée qui existe, qui est la nécessité matérialiste. L'univers est gouverné par des lois physiques. Tout ce qu'on croit être de l'ordre de la liberté, en fait, ce sont des déterminations de notre cerveau, de l'environnement social, du climat. Bon, et il en parle dans cette préface. Puis après, il en vient à des conceptions de la nécessité qui relèveraient maintenant d'une théologie. La nécessité telle que la voit l'islam, mahométane, il dit, bon, les Turcs, et celle que proposent les stoïciens, où il y a aussi une certaine vision d'un dieu et d'un ordre du cosmos, et puis la vision chrétienne. Et donc là, on est aussi dans cette théodicée, on pourrait dire, dans une comparaison des religions, où il ne s'agit pas seulement de justifier Dieu, mais de justifier aussi, de voir ce qui correspondrait au vrai Dieu. Et donc derrière cela, bien sûr, de faire de l'apologétique chrétienne. Et ça a été un des grands enjeux de la pensée de Leibniz, encore une fois. Et je trouve qu'on ne fait pas assez fond en tant que catholique sur ces grands philosophes qui ont essayé aussi de penser le mystère du mal, qui ont essayé de répondre à leurs contemporains, et même aussi, par exemple, de répondre à l'islam. Dans une célèbre lettre sur le mahométisme, il a une phrase étonnante où il dit « Mais le problème, c'est que nous n'avons pas assez diffusé les Écritures saintes dans ces pays-là. » Et il dit « Ils n'ont eu accès au christianisme qu'à travers des choses de seconde main, des philosophies, des théologies tronquées. Non, il faut les Écritures. » Voilà. Et il devient même, Leibniz, philosophe, abstrait. Il met à l'arrière-plan, d'une certaine façon, ses propres raisonnements, ses propres écrits, pour parler de la primauté de la Bible, par exemple. En bon luthérien qu'il est aussi, bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment ce souci permanent.
Nous avons affaire ici, dans ce texte, à une question assez étonnante où Leibniz, d'une certaine manière, se demande comment concilier à la fois la toute-puissance de Dieu et la justice de Dieu. C'est ça ?
Oui. Ce qui l'intéresse surtout, c'est notre action. Alors, ce texte parle trop vite, peut-être, de manière trop moderne, de nécessité. Penser en termes de nécessité, les questions de providence, bon, c'est toujours un peu problématique. Mais il arrive à cette idée qu'en fait, la question, c'est la question de l'articulation de la liberté humaine et de la volonté divine. Dieu étant tout-puissant, effectivement, avant même les questions de justice, puisque pour qu'il y ait justice, il faudrait même qu'il y ait des actes libres posés par les hommes. Bon. Mais pour que Dieu soit tout-puissant, si Dieu est tout-puissant, comment se fait-il qu'il y ait qu'on puisse pécher, par exemple, ça c'est la première chose, puisque ce serait aller contre sa volonté. Alors, est-ce qu'on va contre sa volonté ? Mais alors, si on peut contre sa volonté ? Oui, bah oui, Dieu. Alors, les théologiens diront oui, Dieu a voulu qu'on puisse pécher contre sa volonté antécédente, mais on n'échappe pas à la volonté conséquente, c'est-à-dire après ce qu'il fera avec ce péché. Et Leibniz dira la nécessité du point de vue de l'harmonie préétablie. Ou du dessein divin, ou de la providence divine, n'est pas une nécessité absolue. C'est pas comme Dieu avait tout prévu à l'avance, de telle sorte que, à l'avance dans le temps, de telle sorte que tout n'est que le déploiement d'un scénario. Non. Dieu a pris en considération tous les gestes de tous les hommes, et il les a harmonisés. Voilà, donc ce préétabli chez Leibniz, ce n'est pas avant dans le temps, c'est vraiment cette sorte de combinaison, parce que il faut imaginer, on est avec un grand mathématicien donc, qui a une capacité d'abstraction et qui peut imaginer, comme on ferait aujourd'hui, une super machine informatique qui gérerait des big data innombrables et qui arriverait par un algorithme à tout coordonner. Voilà, ben c'est un peu ça ce que voit Leibniz. Donc Dieu a pris en considération tous les actes de liberté, de tous ces mondes qu'il a créés à travers chaque monade, à travers chaque individu, etc. Donc, c'est ce qu'il dit. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il dit qu'au fond, il y a un danger de la foi en Dieu et de la foi dans la volonté de Dieu conçus comme destinée, voire même comme providence, puisqu'on pourrait devenir paresseux. Voilà, c'est ça. C'est lui qui a cette expression, la raison paresseuse. Et au premier titre, sont paresseux les Turcs. Voilà, c'est... Et parce qu'ils n'ont peur de rien, parce que de toute façon Dieu l'a voulu, alors si je suis là, je peux aller n'importe où, voilà, même à l'endroit où il y a la peste, même risquer ma vie. Si mon heure est venue, ben voilà, je mourrai, mais sinon... Pourquoi les Turcs étaient des guerriers si redoutables et qui n'avaient peur de rien? C'est que, voilà, ils savaient qu'ils ne craindraient rien si c'était pas leur heure. Si Dieu avait voulu que ce soit leur heure, ben, ils mourraient, bon d'accord, mais de toute façon, puisque Dieu l'a voulu, voilà.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, si rien n'échappe à la volonté, n'avons-nous rien à faire? Alors voilà le fatum mahometanum, et ensuite il y a le fatum stoicum, qui est d'une certaine manière un peu moins paresseux, mais qui est lui quand même limité aussi, qui ne permet pas d'être heureux, oui. Qui permet au moins d'être...
Disons que la conception islamique de la destinée, hein, du destin, du mektoub, c'est écrit, hein, selon Leibniz, aboutit, on le voit très bien là d'ailleurs, à la possibilité d'être du kamikaze. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit une théologie qui peut être compatible avec l'attentat suicide, hein, avec cette idée que si c'est au nom d'Allah, je peux tout faire. Je m'identifie à la volonté d'Allah, voilà, et puis il n'y a pas de responsabilité à proprement parler, tout est écrit. Voilà. Et on voit ça d'ailleurs même dans les bandes rivales des racailles de banlieue, quoi. Quand il y a un jeune qui meurt, les autres vont dire « Oui, bon, bah, son heure était venue ». Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est intéressant que Lénine s'en parle dès cette époque-là, hein. Et que ce soit encore prégnant aujourd'hui. Il n'y a pas d'écart, en fait, entre ce qui arrive, ce que j'ai fait, et la volonté divine. Les stoïciens, eux, voilà, c'est une autre vision. Parce que l'enjeu du stoïcisme n'est pas d'étendre l'empire... l'empire d'Allah, ça n'aurait aucun sens d'ailleurs. Enfin, on ne voit même pas pourquoi on serait conquérant, après tout. Si... L'essence du stoïcisme, c'est d'abord la paix intérieure, hein, la paix de l'âme, la tranquillité de l'âme. Donc l'enjeu ici, c'est de dire ne cherche pas à vouloir que les événements arrivent comme tu le veux, mais qu'ils arrivent comme ils arrivent, et comme ça tu auras la paix. Voilà. Amor fati, l'amour du fatum. Ici, c'est précisément pour être dans la paix intérieure. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains pourraient concevoir le christianisme comme ça. Il le laisse entendre par la suite. Hein. Il dit, attention, il y a des chrétiens qui conçoivent la providence divine à la manière des musulmans ou à la manière des stoïciens. À la manière des musulmans, c'est de dire... j'ai Dieu avec moi, j'y vais, ça fait penser un petit peu à ces protestants, hommes d'affaires, vous voyez, on y va, on fonce, quoi qu'on fasse, Dieu est avec nous, et le signe, c'est la réussite de notre action, et puis si ça s'arrête, ben, c'est comme ça, voilà. C'est possible, hein, voilà. Donc il n'y a pas de discernement, il n'y a pas d'interrogation sur son acte, il n'y a pas de vraie responsabilité, de vraie délibération, il y a une sorte d'arrogance, enfin voilà. Et de l'autre côté aussi, l'autre aspect, c'est de dire crois en Dieu et tu te sentiras mieux. Voilà. Tu seras en paix avec toi-même. Et ça, c'est une réduction. Voire même aujourd'hui, quand on dit après tout, on t'a fait du mal, tu vois, pardonne et tu iras mieux. Comme si le pardon n'était pas quelque chose d'actif qui voulait le repentir du pécheur ou du criminel, mais devient simplement un moyen thérapeutique de paix intérieure. Voilà. Eh bien, ça, c'est confondre voilà, la providence chrétienne avec la providence stoïcienne.
Et ensuite, Leibniz aborde vraiment ce qu'il va appeler presque étonnamment le fatum christianum, le destin chrétien.
Alors, d'abord, oui, l'usage de ce mot fatum. Bon, ça, on pense que fatum vient du grec phasis, la parole. Hein. Donc, c'est juste la parole divine. C'est pas, ça n'implique pas du tout une logique nécessairement, enfin, déterministe, voilà, ou de nécessité absolue. Donc, on peut parler d'un fatum chrétien. Je crois que c'est la raison d'en parler. La deuxième chose, c'est que même le mot destin, le mot destiné implique plus de liberté en français que le mot destin. Pour les Italiens, en revanche, destino, à différence du français, n'a pas du tout ce caractère de nécessité. C'est juste la destination, le fait que je suis destiné à cela ou à ceci. Et je pourrais même, d'ailleurs, manquer à ma destinée, à ce à quoi. Donc c'est plus la notion, il destine, c'est plutôt la notion de il fine et la finalité. Voilà. Donc c'est pas du tout.
Destin au sens presque de destination.
Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. C'est une orientation, en fait, hein, vraiment. Donc il faut bien voir que c'est dans notre langue, hein, où le mot destin a ce caractère vraiment massif et complètement déterministe. Cependant, Thomas d'Aquin emploie le mot destin aussi, hein, il lui donne une signification dans le cadre chrétien, à l'intérieur de la somme de théologie, il y a une question sur le destin.
Et alors la contingence semble être compatible avec la certitude du futur ?
Oui, parce que cette contingence est voulue par Dieu. Elle a été prise dans son dessein éternel, l'éternité étant au-dessus du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est le texte finit par une expression. Hein, c'est pas seulement comme avec les stoïciens, parce que c'est très important. En fait, ici, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. On n'en a pas parlé ici, on en a parlé précédemment, mais Leibniz est la tête de Turc. Et là, vraiment, au sens où on pourrait presque dire, où Leibniz entend le mot Turc, la tête de Turc de Voltaire dans Candide. Le meilleur des mondes possible. Alors voilà, les gens sont massacrés, les gens sont. Et puis on dit, oui, mais les femmes sont violées. On dit, mais c'est le meilleur des mondes possible, donc il ne pouvait rien arriver de meilleur, etc. Et c'est comme si, on devait se réjouir de tout ce qui se passait, de tout. Alors c'est pas ce que dit Leibniz. Voilà, faut quand même bien comprendre. Bien sûr qu'il y a la foi qui dit que Dieu tirera un bien de tout ce qui peut arriver, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que soyez contents de ce qui en arrivera, parce que vous ne pouvez pas résister à la nature des choses, à la providence divine. Ce qui peut suffire pour être tranquille, et non pas pour être content. Donc, une distinction entre tranquillité et contentement. Et il y a quelque chose qui va au-delà, et que expressément ce que Voltaire ne voit pas. C'est comme s'il rabattait la question du meilleur des mondes possible, l'harmonie préétablie, Voltaire, sur la foi stoïcienne, sur la conception stoïcienne de la destinée, ou la conception turque, elle-même à la limite. Or, qu'est-ce que dit Leibniz ? Il dit, mais non, vous êtes heureux parce que vous avez affaire à un bon maître. Bon. Bon maître, ça veut pas dire qu'il nous laisse inactifs. Au contraire, un maître, c'est celui qui a des serviteurs, qui agissent. Et c'est pour ça qu'il dit, juste après, un peu avant, comme si l'on disait aux hommes, faites votre devoir et soyez contents de ce qui en arrivera. Donc attention, il s'agit bien de faire son devoir. Il ne s'agit pas simplement de dire... c'est arrivé, c'est le meilleur des mondes possibles, réjouissons-nous. Non, il y a à faire son devoir. Donc s'il y a des choses atroces, notre devoir, c'est quand même de lutter contre ces choses atroces. Notre devoir, c'est quand même d'accomplir la justice. Notre devoir, c'est quand même de vivre en homme honnête. Et c'est parce que nous avons un bon maître et que Dieu a voulu cela. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que croyait Voltaire.
Il ne faut surtout pas se laisser, en fait, en croyant qu'il y a une harmonie, que, de toute manière, nos actions étant prédéterminées... En fait, notre inaction n'est pas prédéterminée. Et donc, c'est en composant avec les actes que nous allons faire que Dieu a choisi ce monde-là.
Effectivement. Alors, bon, sur la question du meilleur des mondes possible, on peut faire une critique, hein, si on le prend dans un sens absolu, parce que entre le fini et l'infini, il y a toujours beaucoup d'intermédiaires. C'est pour ça que les thomistes diront à supposer un monde bon. On peut toujours, entre ce monde fini bon et l'infini monté de Dieu, imaginer un monde meilleur et encore meilleur. Et voilà. Donc, le monde est bon et il finira, il s'achèvera dans l'accomplissement du jugement dernier, de la justice, et voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est absolument le meilleur possible. Voilà. Donc ça chez Leibniz, quand même, il y a quelque chose qui est... qui crée une sorte qui ne voit pas l'écart qu'il peut y avoir entre le fini et l'infini suffisamment. Mais bon, faut pas trop limiter. À nouveau, l'idée du meilleur des mondes possible chez Leibniz, on le voit souvent à travers une question métaphysique, mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce texte, c'est d'abord une question morale. C'est pas une question métaphysique. C'est la question de qu'est-ce qui me motive à continuer à agir alors même que tout s'effondre. C'est d'abord ça. C'est exactement l'inverse de ce que pensait Voltaire. Parce que si Voltaire, on en reste à la morale de l'honnête homme et d'un dieu grand horloger, bah, quand l'horloge a l'air de plus fonctionner, ce qui peut arriver à travers la crise environnementale, avec l'idée que tout est foutu, et s'il s'agit simplement d'être un honnête homme, c'est-à-dire de s'appuyer simplement sur ses propres forces, sa propre vision du monde, ses propres espoirs, ben on est très vite découragé. Et donc l'honnête homme ne fait pas long feu. Mais si tout d'un coup tout a l'air de s'effondrer, la foi que cela est malgré tout un monde bon et le meilleur possible, qu'il n'y a pas d'autres possibilités, à ce moment-là, c'est pour ne pas être découragé, c'est pour être tranquille encore pour agir. Et la deuxième chose, c'est de dire, oui, ça ne se fonde pas sur ton espoir, c'est parce que tu as un bon maître qui d'une certaine façon, t'a donné une mission. Donc, il y a une méconnaissance radicale, généralement, de Leibniz quand on l'accuse avec Voltaire. Quoi.
Est-ce qu'en reprenant la lecture monadologique de Leibniz, on pourrait dire que justement, même le sentiment justement d'absence de paix intérieure pourrait être, vu qu'il ne peut pas venir de l'extérieur, mais qu'il doit, vu qu'il ne peut pas venir d'une autre monade, mais donc qu'il doit nous venir du Créateur, pourrait être justement un éperon à l'action, justement.
Je ne sais pas s'il y a des textes qui articulent, parce que c'est ce qui articule la monadologie et la morale chez Leibniz. Alors on parle de tellement d'auteurs, donc nos auditeurs ont compris que je ne pouvais pas être le spécialiste de tous ces auteurs dont je parle. Il y en a certains que je connais mieux que d'autres, et Leibniz fait partie de ceux que je connais je dirais presque le moins bien. Donc il faudrait voir l'articulation vraiment de la monadologie et de la théodicée leibnizienne. Mais on pourrait penser que d'une certaine façon, du point de vue de la monade que je suis, je dois dire que le monde tel qu'il m'apparaît n'a été créé que pour moi. Et que dès lors, chacun de nous a une responsabilité pour le monde tel qu'il lui apparaît, tel qu'il lui est donné. Et qu'il y a une parfaite proportion entre ce qui arrive et le fait que ça lui arrive à lui. Et donc qu'il doit y avoir une manière d'y répondre. Si je suis là, si j'ai été mis là, si c'est ça que je perçois du monde, c'est forcément mon monde, et c'est forcément le monde tel qu'il a été proposé moi par Dieu. Donc, c'est à moi d'agir, c'est à moi de faire les choses. Et donc, oui, ça devient non seulement le motif d'action, mais quelque chose qui correspondrait à presque à ce que dit Dostoïevski, je suis responsable de tout, pour tous, et donc il y a une urgence que le bien dans le monde naisse à partir de moi.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Leibniz, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt. Et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.